Bibin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Mourir, quelle histoire! Alors c'est vrai que parler de mort comme ça, en été, ça peut paraître un peu décalé. Mais dans Ribin, vous le savez, on aime les chemins de traverse. Et si l'abbaye de Daoulas a choisi ce sujet, c'est parce que c'est un lieu d'exposition d'ethnologie. Quoi de mieux donc que nos pratiques humaines autour de la mort pour raconter justement notre humanité ? Mourir, quelle histoire, est labellisée exposition d'intérêt national par le ministère de la Culture, mais elle nous emmène en fait dans le monde entier. On y croise l'Ankou, bien de chez nous en Bretagne, mais on y explore aussi le Ghana ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée. On pourra voir cette exposition jusqu'au mois de décembre, et c'est Malo Tison qui l'a visitée pour nous.
Je me suis rendu à l'abbaye de Daoulas pour voir l'exposition Mourir, quelle histoire. J'y ai rencontré Edith Joseph, la co-commissaire de l'exposition. Elle m'a expliqué que durant les recherches pour cette exposition, trois étapes principales communes à toutes les cultures se sont dégagées. Tout d'abord, l'attachement. C'est le premier rapport qu'on a à la mort. On signifie son attachement en annonçant la mort, en veillant le mort, en préparant le corps du mort, et en organisant ses funérailles. La façon de montrer son attachement change en fonction des cultures. C'est ce que va nous expliquer Edith Joseph. Elle nous parlera également plus en détail de l'exposition « Mourir, quelle histoire ».
Donc on va mettre le corps quelque part, on va le transporter comme c'était le cas à la fin du 19e siècle jusqu'au début 20e, par le biais d'un cortège funéraire avec un corps bizarre, on a un très bel exemple ici. Dans d'autres cultures, ça va être des chants, des danses, mais il y a toujours une idée de procession. Ensuite, on va atterrir au cimetière, on va arriver dans le cimetière ou dans un lieu où on va déposer le corps ou les cendres, et on a voulu montrer comment ce cimetière était bavard. Finalement, c'est un lieu éminemment vivant et incarné. Tous ces morts, j'aime bien le dire, sont d'anciens vivants. Donc tout ce que racontent leurs tombes ou leurs stèles funéraires ou les poteaux funéraires sont quelque chose qui raconte une histoire d'anciens vivants. On va porter le deuil, c'est le cas dans l'espace que vous avez derrière moi, où ça nous permet aussi de parler comment, justement, suite à la révolution industrielle, à l'émergence de la bourgeoisie, on a une vraie mode, entre guillemets, du vêtement de deuil, du bijou de deuil, de la façon dont les grandes bourgeoises pouvaient porter le deuil en noir, et puis progressivement reprendre la couleur. Mais on trouve aussi chez des gens plus modestes des brassards qu'on porte, par exemple, chez les ouvriers. On porte souvent des brassards ou les femmes un foulard noir. Mais dans d'autres civilisations, on a des personnages qui réellement incarnent cette période de deuil, qu'on appelle les deuilleurs. Dans la seconde partie, on parle de la séparation. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une bonne séparation avec son défunt ? Que ce soit de façon, qu'on soit croyant ou non croyant, quelle symbolique on y applique ? Dans beaucoup de cultures, et c'est le cas de la culture bretonne, c'est pour ça que je vous dis que c'est très intéressant de partir de la Bretagne, parce que la culture de la mort, du rituel, des us et coutumes vis-à-vis de la mort sont tellement foisonnantes qu'on peut avoir une accroche sur des tas d'autres cultures. On a un personnage, un passeur d'âme, c'est l'Ankou. L'Ankou, c'est l'auxiliaire de la mort pour faire passer les âmes du monde des vivants au monde des morts. Et bien il se trouve que ce personnage, on le retrouve dans d'autres cultures. C'est pareil, en s'éloignant très très fort, en atterrissant en Indonésie, dans la population Asmat, on a des personnages comme le Korvar qui vont littéralement récupérer l'âme du mort pour ne pas qu'elle erre sur Terre. Et on ne récupère qu'une partie de l'âme. Parce que contrairement à nous, ce sont des gens qui pensent que l'âme est tripartite. Comme c'est le cas chez les Inuits, où on prend l'exemple du partage de l'âme avec les Inuits en présentant un petit peu comment se passe cette séparation. Mais pour se séparer, il faut aussi se figurer où est-ce que les gens se retrouvent, où est-ce que les personnes de notre entourage partie se retrouvent. Et là, c'est à l'image, en fait, je dirais, de la croyance de chacun, mais aussi de la représentation du monde de chaque culture. Quand on est dans une culture comme la nôtre, relativement linéaire, et si on s'intéresse à la chrétienté, enfin en tout cas aux religions du livre, que sont les chrétiens, les musulmans et les juifs, on se retrouve soit en enfer, soit au paradis. Donc, c'est vraiment cette notion aussi d'arriver de son vivant à prendre le bon chemin. Et pour ça, c'est pour ça qu'on a des crânes, des représentations de vanité, parce que la vanité, depuis la Renaissance en Europe, elle est là pour rappeler le fait qu'il est vain de vivre dans la vanité, justement, puisque on est tous... rappelle-toi que tu... les memento mori, littéralement en latin, souviens-toi que tu vas mourir, est là pour rappeler à chacun de nous qu'en fait, il est inutile d'être vaniteux, puisqu'on aura tous, qu'on soit riche, pauvre, on aura tous la même destination. Ce qui n'est pas totalement vrai, parce que les personnes les plus riches sont quand même enterrées de façon beaucoup plus grandiose et à l'aide de monuments, enfin en tout cas de la culture matérielle est beaucoup plus riche aussi dans la mort que dans la vie. Et puis, on a cette notion d'autre monde. Alors nous, on parle d'au-delà. C'est le cas paradis, enfer, on est dans l'au-delà. Mais si on s'intéresse à des cultures comme la culture bouddhique ou hindouiste, on est plutôt dans une idée de cycle. L'au-delà n'est pas un état permanent. On peut aller temporairement en enfer ou au paradis. Alors il n'y a pas de notion de paradis chez les bouddhistes. On peut dire qu'on peut temporairement être puni, aller dans un enfer, et puis de toute façon, on finira par reprendre son cycle de vie, se réincarner. La vraie punition, elle est dans le fait de mal se réincarner. Vous voyez, c'est pour ça que dans ces croyances cycliques, il n'y a pas de notion, la mort n'est pas l'inverse de la vie, elle est l'inverse de la naissance. La vie, c'est autre chose. La vie, c'est le cycle des vies qu'on va connaître, hein, et l'enjeu, c'est de bien se réincarner. Et quand on atteint ce qu'on appelle le nirvana, d'ailleurs le Bouddha, ce n'est pas un Bouddha, c'est pas le nom de quelqu'un. Bouddha s'appelait Siddhartha Gautama, et l'état de Bouddha, c'est l'état d'éveillé. Il faut atteindre la bodhi, l'éveil, pour sortir du cycle de réincarnation. Et on appelle ça le Maha Pari Nirvana, la grande totale extinction. C'est finalement quand on arrive à sortir de son cycle de vie qu'on a atteint la félicité, quand on est bouddhiste. Et puis, juste un dernier exemple, qui est pour le coup, tout comme on a envie de parler des Inuits pour parler de la séparation des âmes, un exemple qui est pour le coup très éloigné du nôtre, pour cette histoire de représentation du monde des au-delà, on avait envie de parler des aborigènes. Parce qu'en Australie, Tchukurpa, le temps du rêve, ou le dreaming en anglais, c'est un temps où elle n'est ni passé, ni présent, ni futur. C'est-à-dire que quand vous êtes aborigène, vous portez le rêve d'un ancêtre, par tradition ancestrale. Rêver, c'est pas quelque chose d'onirique. Rêver, c'est que cette création est toujours active, que dans les temps anciens, un ancêtre a créé une partie du vivant, et que vous, par votre action, par la perpétuation du récit de ce rêve, alors chez les artistes, ça se traduit par des tableaux qui sont de plus en plus connus et qui sont magnifiques, vous représentez un territoire, le territoire de Tchokurpa, le territoire du temps du rêve, qui est toujours ici et maintenant. Et lors d'une mort, c'est pour ça que je vous parlais dans de ça tout à l'heure, chez les aborigènes, les morts vont sous la terre, vont dans le sol, retournent à des éléments naturels, une pierre, un trou d'eau, mais aussi une plante, un animal, et c'est vrai une notion d'en deçà pour revenir à Tchokurpa, revenir au temps du rêve.
Et il y a tellement de façons pour un mort de ne pas être là, tout en étant furieusement là.
Ah oui, mais ma rotrogade. Dini ni dina ne spadet. Dini ni dina ne spadet. Belang yo wang zalion. Andin hardi kriya galon. Andin hardi kriya galon.
Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à ce sujet-là pour l'exposition de cette année?
Pourquoi on s'est intéressé à ce sujet? Parce que c'est formidable un sujet pareil. C'est-à-dire que ça fait bien longtemps que l'abbaye de Daoulas a envie de traiter du sujet du rapport à la mort. On a parlé de l'amour, on a parlé du rapport à l'alimentation, du rapport au corps. Après, dans les grandes questions humaines, la mort devait venir. C'était comme une intime évidence. C'est un sujet, certes, qui peut paraître ambitieux et audacieux, mais en fin de compte, c'est une question qu'on ne pouvait pas ne pas traiter quand on fait des expositions de société. C'était une suite logique.
Là, on arrive à une nouvelle partie qui oppose les vivants et les morts.
Alors, elle les oppose pas vraiment. Elle va essayer de remanier, on va essayer de montrer comment on remanie les relations. Elle s'appelle « Nous et les morts hein. ». Comment se manifeste la présence des morts parmi les vivants ? Principalement de manière symbolique, hein, parce que dans toute culture, on a des supports de mémoire auxquels on se rattache, que ce soit de manière collective ou individuelle. On a d'abord voulu commencer cette partie par une histoire de communication. Il y a des bons et des mauvais morts. Dans une affaire de croyance et de régulation des relations entre les morts et les vivants, on a dans des cultures, plutôt des cultures chamaniques comme c'est le cas en Amérique du Sud, en Amazonie, chez les Indiens, on va avoir la figure du chaman qui est un intercesseur. Mais ce même intercesseur, on peut le retrouver aussi en Afrique de l'Ouest. Alors, ce n'est pas du tout le même processus, le même procédé, mais c'est le même objectif, à savoir de rentrer en communication avec des bons vivants qui sont morts, des bons morts qui sont prêts à se rendre utiles pour réguler la société des vivants. On questionne les morts, on s'assure que tout va bien de leur côté, on prend conseil auprès d'eux. Et la figure du chaman, par exemple, chez les Bororo, vous avez un magnifique costume de plumes de chaman avec tous les outils dont il a besoin, les instruments de musique, les cigares, qui lui permettent de se mettre en état de transe et qui va lui permettre littéralement de monter pas très haut, mais déjà suffisamment haut, pour aller voir les morts et pour s'assurer qu'ils sont arrivés à bonne destination et s'assurer aussi qu'ils ne viennent pas troubler les vivants. Tout ça, c'est très symbolique. Hein. Les gens ne sont pas... faut pas s'imaginer que ces gens-là, par rapport à nous, ont des croyances archaïques. Hein. Non, là, on est dans quelque chose d'éminemment symbolique qui permet d'expliquer... et de réguler une paix sociale entre les vivants. Ça va être exactement le même cas par rapport aux ancêtres en Afrique de l'Ouest, quand on est chez le Yoruba, qui se situe entre le Bénin et le Nigeria pour la plupart, sur les cultes vaudous, le fait de rendre hommage aux ancêtres et de s'assurer leur bonne grâce, c'est aussi une façon de réguler la société des vivants. Puisque qui respecte l'ancêtre, respecte aussi une certaine règle de vie en société.
Vous avez parlé de mauvais mort. Qu'est-ce que ça signifie qu'on est mauvais mort ?
Alors, quand on est mauvais mort, souvent, c'est pas de sa faute, j'ai envie de dire. Le revenant est toujours un mauvais mort. Quand on parle du revenant, on parle de quelqu'un, c'est un petit peu impropre, parce que c'est quelqu'un en fait, qui n'a pas vraiment pu partir. Quand quelqu'un est mort de façon violente ou de façon injuste, ou par le suicide, c'est-à-dire dans une énorme détresse émotive, ce mort ne va pas avoir réussi, comme on vient de le voir tout au long de ce parcours, à atteindre sa destination. Et donc il va rester sur Terre et il va hanter les vivants. Il va littéralement perturber, ne pas laisser en paix les vivants. Alors ici c'est pareil, c'est comme tout à l'heure sur les passeurs, on a choisi deux exemples qui sont très éloignés géographiquement, mais qui ont un sens commun. C'est le cas des yurei, les fantômes japonais, et finalement des revenants qu'on trouve beaucoup dans les légendes de la mort en Bretagne. Ici, vous avez une magnifique femme, très belle, qui est une revenante parce qu'elle est morte de chagrin, puisque son mari l'a abandonnée, elle est japonaise. Et en face, vous avez les lavandières de la nuit, qui elles sont des femmes souvent qui ont commis des infanticides, mais ce n'est pas la seule version de l'histoire. Et ces deux personnages féminins, vous avez des récits... collectés en Bretagne et au Japon, que vous pouvez retrouver dans des installations sonores.
De toute façon, avec les fantômes, il n'y a qu'une chose qui est sûre, c'est qu'il vient toujours un moment où on ne sait plus rien. Ce spectacle, probablement, va s'appeler Les fantômes sont des choses qui arrivent. C'est chouette, hein?
What is it that you want of me?
Il faut bien s'imaginer que dans l'exposition, il n'y a pas que des objets. Parce que objets inanimés, avez-vous donc une âme ? Eh bien oui, là vous les voyez statiques, immobiles, certes très très beaux esthétiquement, mais tous ces objets n'ont un sens que quand on les met dans leur contexte d'usage. C'est pour ça que tout au long du parcours, vous avez des extraits documentaires, des photographies qui sont là pour vous montrer dans quel contexte ces objets servent, que ce soit en Bretagne ou en Australie ou en Indonésie. Et aussi, parce qu'on le fait souvent à l'abbaye de Daoulas, on va avoir dans différents lieux des témoignages de personnes du territoire. Parce que c'est toujours très important pour nous d'illustrer le propos par ici et maintenant. Donc vous avez, dans la première partie, au niveau du soin de mort, vous avez des officiants catholiques, musulmans, ou un thanatopracteur breton. Tous ces gens-là vivent et pratiquent en Bretagne, comme c'est le cas aussi pour les cimetières, ou comme c'est le cas aussi quand on interroge sur les parties sur les au-delà, les croyants qui sont bretons, sur des croyances bouddhistes, sur des croyances chrétiennes, ou tout simplement sur des gens qui se disent athées, qui ne croient pas en Dieu. Et on choisit toujours d'avoir des témoins du territoire pour traiter de ces questions, pour montrer aussi que sur notre propre territoire, il y a énormément de diversité de pensées et de courants. C'est riche, elle est très riche cette exposition. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour ceux qui aiment les beaux objets, il y en a ceux pour qui ont une quête de sens, il y en a pour qui veut savoir sur le territoire des témoins qui sont acteurs aussi. Et puis on a des dispositifs. Dans le premier espace, vous avez la possibilité, à l'aide d'une machine à imprimer toute simple, et je le dis pour les parents à la craie qui ne tâche pas, la possibilité, pour comprendre un peu ce qu'est un épitaphe, de fabriquer votre propre épitaphe, ou de fabriquer un épitaphe, l'idée étant de manière ludique de faire comprendre aux visiteurs comment on pense ça, comment cet objet qui est arrivé sur les tombes à peu près à la fin du XVIIIe siècle nous permet d'envoyer un message à ceux qui ne sont plus là. Et puis vous avez à la fin du deuxième espace une marelle. Mais oui, parce que la marelle va de la terre jusqu'au ciel, avec un effet miroir où vous ne savez pas trop si c'est un miroir ou si on passe de l'autre côté de quelque chose. Et enfin, dans ce troisième espace, vous avez un téléphone qui s'appelle Téléphone de l'au-delà. Donc vous pouvez décrocher le combiné et appeler un personnage, un artiste qui a été célèbre de son vivant, et qui vous laisse une pensée. Alors l'idée là, plus sérieusement, comme on arrive dans cette troisième partie sur l'idée de commémoration, de commémorer nos morts, de fêter nos morts, de se souvenir de nos morts, et souvent ça passe aussi par des commémorations populaires, comme c'est le cas avec les objets qu'on a empruntés au MUCEM, qui sont une collecte des objets liés à Lady Diana, mais on a voulu aussi passer par le son. Donc on a été chercher à l'INA des paroles de personnes célèbres dont la pensée a marqué aussi durablement, au-delà de la mort de ces gens, la pensée reste. Et là, on a l'occasion de les écouter sur ce qu'ils pouvaient penser de la mort ou ce qu'ils pouvaient penser de la vie. Et c'est aussi une façon de se souvenir d'eux et de commémorer leur personne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que la pensée reste au-delà du décès. Et c'est encore plus le cas sur des gens célèbres. Donc, quelque part, qu'on soit croyant ou pas, la part d'immortalité, elle est toute symbolique, mais elle est bien là.
C'est ce que pensaient les Grecs. Pour les Grecs, la vraie mort, c'est quand on oubliait cette personne.
Et donc, c'est le cas aussi pour les Mexicains. Là, par exemple, dans la fête des morts, on a un hôtel mexicain Donc c'est un moment extrêmement festif, le 2 novembre, la fête des morts au Mexique, où on organise des concerts, on va faire des pique-niques sur les tombes. Mais le but, l'objectif de ces pratiques, c'est justement que le mort ne disparaisse pas complètement. Parce que comme vous le dites, aussi au Mexique, tant qu'on célèbre un mort, il ne disparaît pas complètement. Par contre, le jour où un mort n'est plus du tout célébré, là c'est une fin définitive. C'est ce que raconte de façon beaucoup plus populaire et grand public le film Coco.
C'est lui.
C'est l'enfant vivant.
Je deviens un squelette.
Tu dois rentrer chez toi avant le lever du soleil.
Depuis que je suis née, il y a une chose qui fait que je me sens différent. Et je ne savais pas d'où ça venait.
Qu'est-ce que tu fais?
Je marche comme un squelette pour passer inaperçu.
J'ai jamais vu un squelette qui ait cette démarche.
Vous marchez comme ça. Hein.
Pas du tout.
Là, on arrive dans la dernière partie, honorer nos morts. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver?
Alors bien sûr, dans cette partie sur le fait de commémorer nos morts, on a quand même souhaité montrer aussi des maquettes de monuments aux morts, puisque avec l'industrialisation de la société, les grandes guerres qui ont causé des morts de masse, les États n'ont pas pu ignorer cette mort qui ne pouvait plus être gérée de manière individuelle, mais devait être gérée de manière collective. Et donc, c'est comme ça qu'on voit arriver les monuments aux morts, les célébrations annuelles pour la guerre de 14-18, pour la guerre de 39-45, mais aussi pour la guerre de sécession aux États-Unis. On a connu exactement le même processus. Mais on voulait aussi parler des morts... des commémorations plus populaires. Là, on est sur de la commémoration d'État, où on prend en charge ces morts de masse en signifiant par un monument, en honorant la mémoire de ceux qui sont tombés pour la France, comme c'est écrit d'ailleurs souvent sur les monuments. Mais il y a aussi une autre forme de commémoration collective qui est plus populaire. Par exemple, Lady Diana et Dodi Al-Fayed sont morts sous le pont de l'Alma. Et encore aujourd'hui, alors que ça fait quasiment 30 ans qu'ils sont morts, on a des personnes qui viennent déposer ce qu'on appelle des ex-voto, des photos, des bouquets, des origamis qu'on peut voir dans l'exposition sur la flamme qui se situe au-dessus du pont de l'Alma pour commémorer la mort et la mémoire surtout de la princesse Diana. Et pour finir sur le souvenir, et pour finir aussi finalement avec les visiteurs, en les mettant en dialogue avec d'autres visiteurs potentiels, enfin en tout cas avec d'autres gens comme vous et moi, on a fait une collecte d'objets. On a demandé à des personnes sur le territoire breton, enfin plutôt en Finistère, en Ille-et-Vilaine, de nous prêter des objets qui sont liés à un défunt, qui sont des objets de souvenir. Aussi pour montrer que finalement, au-delà de tous ces rituels spécifiques, au-delà de la création d'objets spécifiques liés à la mort, on a aussi des objets qui ne sont pas créés pour, qui sont des objets qui appartenaient aux gens qu'on aimait et qu'on garde. Et qu'en les gardant, on honore leur mémoire, on garde le souvenir. Et souvent, c'est des gens de la famille qui gardent le souvenir. Et de fait, par la descendance, de façon toute symbolique, au-delà de tout système de croyance, on a toujours un lien à celui qui est parti.
Des cafés philo animés par Yann Marchand seront proposés à l'abbaye de Daoulars en marge de l'exposition « Que faire de nos morts ?» c'est le 29 octobre à 15h30, ou encore « Pourquoi fêtons-nous les morts ?» c'est une séance de philo en famille à suivre dès 8 ans, le 25 octobre à 15h30 à l'abbaye. Vous avez pu entendre un extrait du spectacle « Les fantômes sont des choses qui arrivent » de Marthe Vassallo, qui tourne dans le Finistère et ailleurs en Bretagne. La semaine mortelle aura lieu du 30 octobre au 5 novembre. On y découvrira alors des fêtes colorées et lumineuses où des vivants et des morts se retrouvent dans la joie et le respect. Il y aura des échanges, des visites, des ateliers pour tous. Au festival Grande Marée hors les murs en novembre, des conteurs venus de divers horizons francophones feront découvrir leurs univers lors de nombreuses séances organisées en Pays de Brest. Et il y aura aussi des histoires de morts. Quant à cette exposition « Mourir, quelle histoire ?», elle est à voir à l'abbaye de Daoulas jusqu'au 3 décembre.